Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Avec ses plages de rêve, ses eaux turquoises et sa position stratégique, l'île italienne de Lampedusa est devenue le point de chute de dizaines de milliers de réfugiés ou de candidats à l'émigration en Europe, prêts à braver tous les dangers et à payer jusqu'à 2 500 $ à des passeurs sans scrupules. Dans un geste fortement symbolique, le pape François va s'y rendre dans quelques jours. C'est la une de ce magazine. La première encyclique de ce pontificat paraîtra cette semaine, écrite à quatre mains et consacrée à la foi, elle sera l'expression de la continuité entre les deux papes actuellement en vie. Ils viennent du Vietnam, du Zimbabwe ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 6 000 séminaristes et novices du monde entier sont attendus à Rome. Les vocations « chantier crucial pour l'Église » seront à l'honneur ces jours prochains. Le pape François se rendra lundi prochain sur l'île de Lampedusa, au large de la Sicile, où des milliers d'immigrés clandestins accostent chaque année en provenance d'Afrique. Il s'agira de son premier déplacement depuis son élection. La visite sera entourée de la plus grande discrétion. La présence des autorités civiles et religieuses sera réduite. Marie Duhamel.
Au mois de juillet, le rythme ralentit au Vatican et le pape en profite, non pas pour se reposer avant les prochaines journées mondiales de la jeunesse, mais pour poser un geste simple et très fort, parce qu'il a été profondément touché par le récent naufrage d'une embarcation transportant des migrants qui, venus d'Afrique, rêvaient d'Europe. Touché, le pape veut se rendre sur leur terre promise. À Lampedusa, François souhaite d'abord prier pour tous ceux qui ont perdu la vie en mer au large du port, lui-même sur une barque. François lancera d'ailleurs une couronne de fleurs en leur mémoire dans la Méditerranée. Le pape ira ensuite à la rencontre des survivants au voyage sur les quais du port, puis plus tard dans la matinée lors d'une messe célébrée aussi pour les habitants de l'île. Cette visite confirmera la communauté chrétienne de Lampedusa dans son œuvre de charité et d'accueil, explique l'évêque local, l'évêque d'Agrigente, pour qui cette visite est une immense joie, une grâce extraordinaire, un message qui, dit-il, nous aide à lire l'histoire avec les yeux de Dieu.
Au cours des 6 premiers mois de l'année 2013, près de 8 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes, soit le double de l'année précédente pour la même période. Avec la belle saison, ce sont des centaines d'immigrants illégaux qui se déversent sur les côtes du sud de l'Italie. Entassés à bord d'embarcations de fortune, certains perdent la vie pendant la traversée. Ils sont originaires d'Érythrée, d'Afrique subsaharienne, de Tunisie ou d'Égypte. Généralement, les embarcations partent de Libye. Un centre d'identification et d'expulsion a été établi sur l'île où les capacités d'accueil sont réduites. Après l'annonce de la visite du Saint-Père, Manuela Figi a recueilli la réaction du cardinal Velio, président du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement.
Depuis que le pape est devenu pape, il n'a pas manqué une occasion pour parler de ces grands problèmes de migration, de réfugiés. Alors cette annonce, vraiment, je crois que soit providentielle. Et je crois que la visite, aussi ce sera bref, informelle, si on peut dire comme ça, sera très très positive.
Est-ce que vous souhaiteriez qu'une fois sur place, le pape François lance un appel fort à l'adresse des autorités européennes pour les sensibiliser encore plus à ce problème récurrent de l'île de Lampedusa?
Je crois que ce n'est pas nécessaire des paroles fortes. Déjà la visite, c'est quelque chose de très significatif. Et la première fois qu'un pape va à Lampedusa, ça c'était déjà, l'acte c'est très fort. Ça, c'est pour montrer l'intérêt que l'Église a vers ces problèmes.
Écoutez également la réaction de James Stapleton du JRS, le centre jésuite pour les réfugiés.
Jusqu'à maintenant, il y a trop de personnes qui sont mortes en essayant d'arriver en sécurité en Europe. Le pape a déjà fait un appel aux autorités et on espère deux choses. Le premier, qu'il fasse un autre appel, les Vatican, ils font la pression afin que les autorités italiennes, mais tous les autorités européens prennent les responsabilités. Et second, on est vraiment content que le pape il va être avec les personnes qui ont plus besoin. c'est-à-dire les personnes qui sont arrivées en Italie, ils ont besoin de la protection internationale et le pape, il est un témoin avec eux.
Changement au sommet de l'Église en France à partir de ce lundi 1er juillet. La conférence des évêques a un nouveau président. Élu le 17 avril au cours de l'Assemblée de printemps, Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille depuis 2006, succède au cardinal André XXIII, archevêque de Paris, qui n'était pas rééligible. Sa devise épiscopale « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » le situe dans l'air du temps, dans le style du pape François. Homme de terrain, mais aussi de prière, on le dit souriant et conciliant, simple est facile d'accès, fin et discret, proche du monde rural et attentif aux jeunes, cultivant la proximité, un sage dont les avis sont écoutés. Ferme dans ses convictions, il s'est fait remarquer par ses prises de position au sujet de l'immigration et de l'intégration et pour son engagement auprès des Roms et des sans-papiers. Il est réputé et parfois attaqué pour son sens du dialogue, notamment avec l'islam. Il est membre d'une fraternité de prêtres, la fraternité sacerdotale Jésus Caritas, qui s'inspire de la spiritualité de Charles de Foucault. Au sommet de la conférence, il sera assisté par deux vice-présidents, Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, et Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier. Je vous propose de réécouter un extrait de l'entretien qu'il nous avait accordé juste après son élection, au mois d'avril.
La ville de Marseille est une ville intéressante par rapport à la vie de la société, chez nous en France, que ce soit sous le mode de l'économie, avec une situation marquée par des formes diverses de pauvreté, que ce soit le brassage des populations et donc tout ce qui touche l'interculturel et bien évidemment l'interreligieux. Vous voyez, il y a un ensemble de domaines qui, de fait, à Marseille, on touche du doigt quotidiennement. Et forcément, ça me marque, mais ce n'est pas pour imposer à l'ensemble des évêques ce qui se vit à Marseille.
Vous avez d'ailleurs notamment œuvré beaucoup en faveur du dialogue interreligieux.
C'est sûr que dans une situation comme Marseille, on ne peut pas ne pas œuvrer pour le dialogue interreligieux. Et ce dialogue étant entendu de manière large, c'est-à-dire qu'il est d'abord ce dialogue que je constate à Marseille entre les gens de confessions différentes qui habitent cette ville, qui habitent les mêmes cités, les mêmes quartiers, puisqu'on n'a pas de banlieue chez nous, mais que tout est entre les anciens villages. Et dans ce dialogue au quotidien, des gens différents existent. Après, il faut organiser de fait des rencontres entre responsables pour que, entre nous, se crée une connaissance, une confiance et donc une visibilité aussi du désir que nous avons tous de porter ensemble la bonne marche de la société. Et ensuite restera le niveau plus grand de réflexion théologique ou de rencontres plus spécifiques, mais qui, bon, à Marseille est possible parce qu'on a l'Institut des sciences de théologie de religion et puis qu'on a des partenaires juifs et des partenaires musulmans qui ont aussi leur lieu de réflexion et qui nous permettent de nous rencontrer.
Vous avez également une certaine expérience en termes de lien avec le monde politique. Là aussi, de Marseille à Paris, à la tête des évêques de France, ce sera une expérience très utile.
C'est une expérience utile, puis c'est une expérience qui, dans la spécificité française, se joue dans la complémentarité à ce niveau-là entre le rôle de l'archevêque de Paris, qui est situé dans ce pôle très centralisé de notre pays, et puis le président de la conférence. C'est sûr que tous les deux, nous, sur ce point précis des relations avec les pouvoirs publics, nous aurons à collaborer comme c'est la tradition dans ce pays.
Quels vont être les grands chantiers, les défis que vous allez devoir affronter ?
L'avenir va nous le dire. L'avenir va nous le dire. Et j'y réfléchirai vraiment à partir du 1er juillet avec mes confrères du Conseil permanent.
Dans quel état d'esprit vous préparez-vous à aborder cette nouvelle mission ?
C'est le désir de servir la collégialité entre notre épiscopat pour que chacun puisse se sentir écouté et qu'il y ait une communion entre nous. On s'aperçoit comment aujourd'hui la communion d'un épiscopat par lui-même dit beaucoup de choses. Et j'entends mon service comme d'abord celui-là, d'être à l'écoute et au service de la communion entre les évêques étant le président de la conférence.
Monseigneur Pontier, nouveau président de la Conférence des évêques de France, interrogé à la mi-avril par Hélène Destombes. La première encyclique du pape François, Lumen Fidei, sera rendue publique vendredi prochain, 5 juillet. Elle sera présentée dans la salle de presse du Saint-Siège par le cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques, par Monseigneur Muller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et par Monseigneur Ino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Une encyclique écrite à quatre mains. Devant le secrétariat général du synode des évêques il y a quelques jours, le Saint-Père avait annoncé qu'il co-signerait avec son prédécesseur une encyclique sur la foi. Le pape Benoît l'a commencé, me l'a transmise, avait-il indiqué. C'est un document fort, il a fait un grand travail et je l'ai poursuivi. Fin de citation. Il s'agit donc de l'encyclique sur la foi que Joseph Ratzinger avait prévu de publier à la suite de celle qu'il avait précédemment consacrée aux deux autres vertus théologales, la charité et l'espérance. Au moment où il a renoncé au pontificat, elle était presque terminée. Les séminaristes, les novices et ceux qui suivent un itinéraire vocationnel seront à l'honneur ces jours prochains au Vatican. Des journées leur seront consacrées du 4 au 7 juillet dans le cadre de l'année de la foi et sous les auspices du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Pour ce dernier, il était important de remettre le thème de la vocation sur le devant de la scène. L'événement, son esprit et son programme ont été présentés ce lundi matin dans la salle de presse du Saint-Siège. Xavier Sartre.
6000 séminaristes et novices d'une soixantaine de pays sont attendus à Rome. Ils viennent pour certains de pays lointains comme la Chine ou le Japon, la Tanzanie ou le Chili, l'Uruguay ou les îles Salomon. Ils représentent des dizaines de milliers de jeunes qui, dans le monde entier, trouvent encore la force et l'audace de se consacrer au Seigneur dans la vie sacerdotale et religieuse. Les promoteurs de cette initiative entendent mettre en valeur la joie et le courage de ces jeunes en dépit des difficultés que leur choix exigeant comporte. Devant les journalistes, Mgr Fisichella a souligné que c'est de la rencontre avec le Christ que naît la force nécessaire pour se mettre entièrement au service de l'Église et des autres. Prière, réflexion, rencontre, témoignage, pèlerinage, procession, méditation, catéchèse en plusieurs langues vont jalonner ces journées autour du thème « J'ai confiance en toi ». Point d'orgue de cette initiative, la rencontre avec le pape François samedi soir dans la salle Paul VI et la messe présidée par le Saint-Père dimanche matin dans la basilique Saint-Pierre. Une fête est également prévue vendredi soir sur la place du Capitole. Il s'agit aussi de développer des liens d'amitié et d'encourager la participation active et féconde à la vie de l'Église.
Au Canada, l'Église catholique a lancé dimanche une vaste campagne d'aide d'urgence pour les réfugiés syriens. Les sommes recueillies permettront de soutenir le travail accompli au Moyen-Orient par les organismes caritatifs et les agences de développement catholique, notamment par Caritas Internationalis. Cette campagne se poursuivra tout l'été. Elle atteindra son point culminant lors d'une journée de prière et de jeûne pour la population de la Syrie et du Moyen-Orient le samedi 14 septembre. Pour nous en parler, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, Manuela Affigi l'a interrogé lors de son passage à Rome en fin de semaine dernière.
Nous avons accueilli la suggestion du Saint-Père François, qui a déjà à plusieurs reprises a dit et a invité l'Église, les membres de l'Église à travers le monde, à être sensibles à cette souffrance énorme et qui dure dans les pays du Moyen-Orient, spécialement en Syrie. C'est des milliers, pour ne pas dire des millions de réfugiés, des souffrances vraiment incroyables. Pendant tous ces mois d'été, alors que nous serons en vacances, en train de refaire les forces, nous ne pouvons pas fermer les yeux et oublier nos frères et sœurs dans le besoin. Chrétiens ou non, il y a des gens qui ont besoin de notre solidarité. Alors ce sera une campagne bien menée de sensibilisation dans les médias, par les médias sociaux, par Internet, dans nos paroisses, dans nos groupes. Et aussi, nous voulons avoir une campagne de solidarité, non seulement économique, où nous allons apporter des dons qui seront retransmis, donnés pour venir en aide à ses frères et sœurs, mais nous voulons aussi faire une campagne de prière pour que ce soit aussi spirituel. Ce que partager dans la foi, c'est déjà un geste de charité, un geste qui nous aide à sortir de nous-mêmes, mais nous voulons aussi accompagner ses frères et sœurs par la prière. Et nous allons clôturer ça par une grande journée de prière et de jeûne autour du 14 septembre, fête de la Croix glorieuse, qui est une fête qui est très sensible pour nos frères et sœurs de Syrie. Par la prière, par notre solidarité, notre communion, aussi notre partage économique, nous pouvons apporter cette goutte d'eau dans l'océan de cette souffrance pour soulager. C'est bien prêcher l'évangile, c'est nécessaire, l'évangélisation, la catéchèse, tout cela. Mais le pape Benoît XVI le rappelait au début du synode dernier, en octobre, il y a la confession de la foi, mais il y a aussi la charité. Alors, je me réjouis de cette initiative et moi, je vais m'investir beaucoup au cours des mois d'été jusqu'en septembre pour m'assurer que partout, on parle de cette campagne et qu'on invite à nous ouvrir les yeux aux dimensions du monde, notre grande famille.
C'était l'archevêque de Québec, Mgr Lacroix. Le patriarche latin de Jérusalem a entamé ce lundi une visite à Paris. Lors de ce séjour, Mgr Foitoil recevra les insignes de grand officier de la Légion d'honneur. Il rencontrera les autorités françaises et s'exprimera sur les chrétiens d'Orient et la situation politique au Moyen-Orient. L'objectif principal de ce voyage est de sensibiliser l'opinion française aux problèmes des chrétiens d'Orient dans le contexte actuel de la Syrie et des réfugiés qui affluent en Jordanie. Vous l'avez entendu, le pape François, tout comme le nouveau président de la Conférence des évêques de France, Mgr Pontier, ont fait de la proximité avec les pauvres une de leurs priorités. Dans le cadre de nos rediffusions estivales qui démarrent ce lundi 1er juillet, je vous propose de réécouter une de nos interviews sur la pauvreté réalisée à la fin de l'année 2012 à l'occasion d'une initiative lancée par l'Union européenne de radiodiffusion et intitulée « Why Poverty » à laquelle Radio Vatican avait tenu à s'associer. Nous réécouterons le témoignage de Jean-Michel Caillot, volontaire assidu de l'association ATD Carmonde. Selon lui, pour lutter contre la précarité, il faut d'abord la comprendre mieux, il faut penser le monde à travers elle, apprendre à écouter les pauvres, mais aussi apprendre d'eux. Jean-Michel Caillot est co-auteur d'un ouvrage collectif, La voix de l'autre, Entendre la pauvreté, paru aux éditions Labor et Fides. Il était interrogé par Justine Vassogne.
C'est pas le fait de voir des gens très pauvres qui nous apprend quoi que ce soit, il faut encore avoir un regard et une oreille qui soient attentives d'une certaine manière. Et peu à peu, j'ai découvert, je dis bien peu à peu parce qu'il a fallu des mois et des années, que cette expérience est une expérience humaine fondamentale, je veux dire l'expérience des gens qui vivent dans la misère, l'expérience du mépris, de la honte, de l'humiliation, du rejet, d'une ne compter pour rien. C'est une expérience humaine fondamentale et une expérience qui nous manque. Quand je dis qui nous manque, c'est-à-dire qui manque à vous, qui manque à moi, qui manque à notre société, qui manque à notre Église, qui manque à tous les gens qui vivent sur la Terre. C'est une expérience qui, tant que nous ne l'avons pas entendue et tant que nous n'avons pas décidé de réfléchir à partir d'elle, eh bien, notre humanité n'est pas accomplie.
Et comment peut-on faire pour réfléchir à partir de la pauvreté, alors ?
Comment faire ? C'est-à-dire ne pas imaginer, par exemple, vous qui m'interrogez, que vous avez la vérité sur le monde, que vous connaissez mieux que moi, ou mieux que le plus pauvre dans votre montée d'escalier, ou mieux que le plus pauvre dans votre rue.
Mais alors, pour comprendre la misère, pour comprendre le pauvre, il faut se mettre à sa place. Est-ce qu'il faut soi-même devenir pauvre ?
On peut se mettre à la place de personne. Première chose. Deuxième chose, il n'est pas question de devenir misérable. Mais de fait, vous avez raison, il faut devenir pauvre. C'est-à-dire que la misère dans ce monde cessera un jour, parce qu'il faut la détruire, il ne faut pas la soulager, la misère. Eh bien, elle sera détruite le jour où nous serons devenus tous pauvres. C'est inconcevable qu'on puisse laisser des gens mourir de faim, mourir de misère aujourd'hui en France, et que d'autre part, on puisse acheter du parfum chez Dior. Il s'agit en effet de déposer tous ces oripeaux qui nous habillent et qui empêchent que la relation entre les êtres humains puisse se faire d'une manière normale. Les relations aujourd'hui ne sont pas normales, ce sont des relations d'injustice.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est donc l'été. Les audiences générales du pape François sont suspendues pendant les mois de juillet et août. Elles reprendront, selon le rythme habituel, le mercredi 4 septembre. Sachez par ailleurs qu'au mois d'août, c'est au Vatican qu'aura lieu la prière de l'Angélus, le dimanche à midi, place Saint-Pierre. Le 15 août, solennité de l'Assomption, le Saint-Père se rendra à Castel Gandolfo pour y célébrer la messe en l'église paroissiale, puis il récitera l'Angélus au palais pontifical d'été. C'est la fin de cette émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter et nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Je répète, magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.